ressemble pas. Le bûcher est en toi.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. C'est le groupe d'Amnesty International Évreux. Je vais juste faire une petite remarque à Renan, elle a toujours le générique qui passe. Là, Renan, si tu peux le couper, ce serait sympa. Merci. Voilà. Donc, un petit souci technique, mais c'est pas grave. Donc, c'est le groupe d'Amnesty Évreux pour sa première émission du mois de février. Et donc on est là pendant une heure, comme deux fois par mois, pour vous parler de l'actualité des droits humains, de toutes nos mobilisations et de tous nos combats et de toutes nos réussites par rapport à ça. Et on sait que vous nous écoutez, que vous nous soutenez et que vous agissez avec nous, et c'est ça l'essentiel. Ce soir, pour commencer l'émission, on va faire pas comme d'habitude, on va vous donner une information qu'on va redévelopper à la fin de l'heure, mais qui est la venue du bus Amnesty International à Évreux le vendredi et samedi prochain, donc le 16 et le 17, c'est très proche, et ce bus sera donc au lycée Aristide Briand le 16 et le samedi 17 au Cube, à la salle des musiques actuelles. Donc on vous attend, surtout évidemment le samedi, puisque c'est une journée ouverte au public, il y aura la projection de films et de débats à propos du thème des réfugiés et des migrants. Donc on vous attend au Cube samedi après-midi, mais vous aurez tout le détail à la fin de l'émission. Voilà, et on voulait aussi dédier l'émission à deux personnes qui nous tiennent particulièrement à cœur. C'est le président d'Amnesty Turquie, Taner Kilic, j'en avais parlé dans une précédente émission, qui a été déclaré libérable à l'audience de son procès, la dernière audience, parce qu'il est en prison depuis le mois de juin dernier, à la dernière audience de son procès le 31 janvier, mais il n'a même pas été libéré parce que le procureur a fait appel et que le juge a accepté de revenir dès le lendemain matin sur sa décision de libération, ce qui est un déni de droit absolument flagrant. Et donc Taner Kilic est de nouveau en prison préventive alors qu'il avait été déclaré libérable pendant 24 heures. Donc voilà, on continuera l'action pour lui, on vous en reparlera dans les prochaines émissions. On pense bien à lui et de toute façon, Taner Kilic est en prison pour une seule raison à l'heure actuelle, il est le président d'Amnesty Turquie et ça suffit pour que l'État turc effectivement le maintienne en détention, c'est gravissime. Et une autre personne qu'on connaît bien aussi, c'est Martine Landry, qui elle doit passer aussi en procès demain à Nice auprès du tribunal d'instance parce qu'elle est poursuivie par la justice française pour avoir aidé deux mineurs étrangers à rejoindre l'Italie à la France où ils avaient une possibilité pour être recueillis par la direction de l'action sociale, j'ai plus le nom en tête là précisément. Donc en fait elle n'a fait que son devoir de citoyenne et elle est poursuivie pour ça, elle repasse en audience demain donc à Nice et on pense bien à elle, on la soutient et on espère effectivement que les poursuites, là aussi une grande première, l'État français poursuit des militants d'Amnesty en France et on espère bien effectivement que cette poursuite va s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé. Donc Martine, on t'envoie un gros bisou par les ondes, on pense à toi. On pense aussi au niveau du groupe d'Evreux à Sabine qui devait être avec nous ce soir mais qui a un petit souci de santé et puis à Claire Lise qu'on attend mais qui est un petit peu retardée je pense pour des raisons professionnelles. Et j'ai oublié de vous dire qui était avec nous. Il y a Françoise qui est à côté de moi.
Oui, bonsoir.
Voilà, et il y a Renan qui apparemment a des petits soucis techniques.
Non,
ce soir.
Non, il n'y a aucun, voilà. Y a aucun souci. Donc, justement, j'allais parler parce que tu parlais des absents, tu ne parles même pas des présents.
Donc. Voilà. Bon, donc, pour conclure cette petite introduction, il y a quelque chose qui m'a fait bondir. Moi, ce matin, j'ai écouté France Culture. Assez tôt ce matin, il y a une déclaration que je vais vous lire d'une politologue qui s'appelle Caroline Galacteros, qui était invitée de France Culture. Et le thème, c'était sur la situation, un pays dont on vous a déjà parlé. parler bien évidemment la situation de la guerre en Syrie. Et cette dame a dit la chose suivante par rapport à la protection des populations. Je cite mot pour mot, hein. L'angélisme est le masque du cynisme et le réalisme est infiniment plus humain que l'angélisme et fait beaucoup moins de morts. C'est tout le problème de l'humanitarisme dans notre monde. Ce qui se passe en Syrie avec un petit ou un grand tyran, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un État et qu'une fois qu'on l'a déstabilisé et qu'on a fait entrer toutes les engeances terroristes de tous les pays alentours, on ne peut pas s'étonner d'avoir des drames humains absolument terrifiants. Et elle a conclu en disant « Pour la sauvegarde humaine, il faut arrêter d'intervenir et de déstabiliser les États ». Alors cette dame, qui m'écoutera sans doute pas, mais je vais quand même lui dire qu'elle a entièrement faux sur toute la ligne, puisque la population syrienne avait commencé par réclamer la démocratie, et qu'à ce moment-là, en 2011, il n'était pas question de troupes islamistes pour se battre dans ce pays, que M. Bachar el-Assad a fait tirer sur sa population parce que sa population réclamait la démocratie. Et que c'est indispensable que les gens se mobilisent autour de la défense des autres êtres humains, de la défense des valeurs fondamentales comme les libertés, les droits de l'homme et la démocratie, que ce n'est pas une intervention auprès des États que de défendre ce genre de choses. Simplement, les gens qui prétendent le contraire, comme elle, ça s'appelle en droit français effectivement non-assistance à personne en danger. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du délit. Donc cette dame, bien qu'étant politologue, est absolument faux sur toute la ligne dans son analyse, et que simplement c'est une façon de juste justifier les crimes qui sont commis actuellement en Syrie et bien ailleurs, et qu'on dénonce à longueur d'émission, et qu'on ne s'arrêtera pas pour autant. Et je vais juste m'arrêter et laisser la parole à Françoise, parce qu'il faut qu'elle nous quitte tout à l'heure. Françoise, je vais juste lui laisser la parole. Mais je voulais dire avant que cette dame, effectivement, a employé ce mot d'humanitarisme pour parler des gens qui font de l'humanitaire, que c'est un terme, alors j'étais voir sur le dictionnaire, que c'est un terme péjoratif qui signifie l'ensemble des conceptions humanitaires jugées utopiques. Eh bien, défendre les autres pour nous et défendre, effectivement, la vie des femmes, des enfants, etc., etc., et bien pire, ce n'est pas de l'humanitarisme, Madame Galacteros, c'est simplement un devoir moral d'être humain.
Tout à fait.
Voilà. Donc maintenant, c'est Françoise qui va vous parler. Ben, elle va vous le dire elle-même.
Bien. Eh bien, je vais vous parler en premier d'une Égyptienne, une prisonnière d'opinion privée de soins vitaux. C'est une deuxième action. Il y a déjà eu sur elle une action urgente. Et Amnesty en envoie une seconde, là, parce que sa situation s'aggrave. La militante des droits humains, Anan Bad Eldin, actuellement incarcérée pour des accusations fallacieuses pour avoir dénoncé des disparitions forcées en Égypte et privée des soins médicaux dont elle a besoin. Elle est atteinte d'une maladie génétique et son état de santé se dégrade rapidement. Prisonnière d'opinion, Anan Bad Eldin doit être libérée sans délai. Cette militante des droits humains, qui est atteinte de la fièvre méditerranéenne familiale, maladie génétique qui provoque des fièvres et des inflammations douloureuses dans l'abdomen, les poumons et les articulations, est privée des soins médicaux dont elle a besoin, ce qui peut constituer une forme de torture ou de mauvais traitement. Son état de santé se détériore rapidement et elle risque une insuffisance rénale parce qu'elle est privée de soins nécessaires. Cette dame recevait régulièrement ses médicaments grâce à sa famille jusqu'à ces dernières semaines. Pourtant, il y a peu, les autorités carcérales ont informé sa famille qu'elles n'accepteront plus que les ordonnances ou les diagnostics des hôpitaux publics. Sa famille a déclaré à Amnesty International que les hôpitaux publics refusent de fournir un diagnostic aux détenus et que les autorités carcérales refusent de la transférer vers un hôpital extérieur à la prison. De ce fait, elle est privée des soins nécessaires et des médicaments spécifiques dont elle a besoin. En conséquence, son état de santé s'est considérablement détérioré ces deux dernières semaines. Selon sa famille, elle souffre de belles douleurs au poignet qu'elle ne peut plus écrire. Elle souffre aussi de fièvre tous les 3-4 jours et a perdu beaucoup de poids. Les autorités carcérales lui permettent simplement de se rendre à l'hôpital de la prison qui est mal équipé et dont le personnel en sous-effectif n'est pas formé pour répondre à ses besoins spécifiques. Cette dame partage sa cellule avec 19 détenus. Il n'y a qu'un lit pour deux. L'accès à de l'eau propre pour boire et se laver est insuffisant. Un juge renouvelle la détention d'Anan Bard Eldin tous les 45 jours environ. Lors de la prochaine audience le 5 février, le juge décidera de la remettre en liberté ou de renouveler sa détention pour 45 jours supplémentaires. Je constate que l'action urgente, cette deuxième action urgente, a été envoyée le 7 février, donc on n'a pas eu connaissance de ce qui s'est prononcé, de ce qui s'est passé là, à ce moment-là. C'est une prisonnière d'opinion, elle doit être libérée immédiatement et sans condition. Donc on vous demande d'écrire aux autorités, si vous le pouvez, vraiment, et de ne plus intervenir après le 16 mars. Donc, vous appelez, vous écrivez, vous mettez un mot sur amnistie.evreux@gmail.com et nous vous donnerons les informations nécessaires pour écrire par rapport à cette action.
Tout à fait. N'oubliez pas que c'est important d'agir, donc de nous contacter par mail pour qu'on vous envoie cette action à faire.
Voilà, un autre sujet, c'est la tournée que font actuellement des femmes, on les appelle les femmes du Don, de Russie. Elles sont en France du 12 au 24 février. À 3 semaines du premier tour des élections présidentielles en Russie et dans un contexte d'atteinte grave aux libertés individuelles et droits fondamentaux dans le pays, Amnesty France invite une délégation de 6 membres de l'organisation Alliance des femmes du Don. À cette occasion, la délégation participera à divers ateliers de formation et rencontrera des acteurs associatifs, décideurs politiques et médias afin d'évoquer, entre autres, la situation des femmes dans le pays, la répression envers les ONG et les conséquences des conflits armés dans la région. Alors, Valentina Cherevatenko, lauréate du prix Anna Politkovskaya, est une défenseure des droits humains de premier plan en Russie. Fondatrice et présidente de l'ONG russe, l'Alliance des femmes du Don, elle devient en 2016 la première dirigeante d'ONG poursuivie en Russie au titre de la loi relative aux agents de l'étranger. Alors qu'elle risquait jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, les charges ont été abandonnées contre elle en juin 2017. Les Femmes du Don, cette association, travaille depuis plus de 20 ans sur un large éventail de questions allant des droits humains à l'aide humanitaire et à la consolidation de la paix dans l'oblast de Rostov et les régions voisines, notamment dans le Caucase du Nord. Entre autres, elle propose du soutien psychologique et de l'aide juridique aux groupes vulnérables de la région et a développé des programmes originaux de médiation entre forces de l'ordre et populations locales. Elle fait partie des ONG les plus respectées et reconnues en Russie. L'Alliance des femmes du Don et son organisation affiliée, la Fondation des femmes du Don pour le développement de la société civile, dont Valentina Cherevatenko et membre du conseil d'administration, a été désigné comme des agents de l'étranger par le ministère de la Justice le 5 juin 2014, puis le 27 octobre 2015.
On a déjà eu l'occasion de parler de cette fameuse histoire d'agents de l'étranger à la radio, effectivement. Voilà. D'une façon très déplacée de par les autorités russes d'interdire en fait des ONG.
Alors, les restrictions imposées à la liberté d'expression, d'association et de réunion ne cessent de s'aggraver en Russie. Des personnes ont été inculpées au titre de la législation contre l'extrémisme pour avoir critiqué la politique du gouvernement et avoir exhibé publiquement ou détenu des textes ou des objets présentés comme extrémistes. Une série de modifications de la législation de lutte contre le terrorisme, appelée « train de mesures de l'Arovaya », a été adoptée le 7 juillet 2016. Ces nouvelles dispositions sont en grande partie contraires aux obligations internationales de la Russie en matière des droits humains. Des cas de torture et d'autres mauvais traitements ont été signalés dans les établissements pénitentiaires. Les carences en matière de soins médicaux dans les prisons mettaient en danger la vie même des détenus. De graves atteintes aux droits humains commises dans le cadre des opérations de sécurité menées dans le Caucase du Nord continuent d'être signalées. C'est pour ça qu'il y a une association qui s'est formée dans cette région-là. Des personnes qui avaient osé critiquer le pouvoir en place en Tchétchénie ont été la cible d'agressions de la part d'acteurs non étatiques et de poursuites en justice. Des défenseurs des droits humains travaillant dans la région étaient victimes d'actes de harcèlement, également de la part d'acteurs non étatiques. La Russie a fait face à de nombreuses critiques de la communauté internationale concernant les crimes de guerre dont ses forces seraient rendues coupables en Syrie. La CPI a poursuivi son examen préliminaire de la situation en Ukraine et notamment des crimes perpétrés dans l'est de ce pays et en Crimée. Par ailleurs, en 2017, des centaines d'hommes perçus comme étant homosexuels, auraient été enlevés en Tchétchénie, selon le quotidien indépendant russe Novaya Gazeta. Ces hommes auraient subi des actes de torture ou d'autres mauvais traitements et auraient été contraints de divulguer l'identité d'autres personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de leur connaissance. Voilà un peu la situation telle qu'elle est en Russie et ces femmes vont en parler en France.
Tu peux rappeler effectivement comment ça va se passer en fait leur intervention en France, c'est ça ?
Eh bien, elles vont intervenir dans des ateliers de formation. Elle rencontrera des acteurs associatifs, décideurs politiques et médias afin d'évoquer entre autres la situation des femmes dans le pays. Et elles vont aller à Paris et dans d'autres villes de France dont je n'ai pas retenu.
D'accord. Enfin, elles seront en France, je vois sur ta feuille, du 13 au 24 février. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont tombées. Là, puis c'est la spécialité de Ronan. Donc, si Ronan peut nous donner une bonne nouvelle, ce serait positif.
Pas de souci. Soudan du Sud, un embargo des États-Unis. Le gouvernement américain a instauré un embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud. Ce pays est déchiré depuis 5 ans par un conflit armé qui engendre des violations généralisées et des souffrances inouïes, un exemple à suivre. Cette annonce très attendue de l'administration Trump doit maintenant inciter le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures plus fermes. L'idée est de prévenir les homicides de civils et autres violations flagrantes des droits humains au Soudan du Sud en imposant un embargo total sur les armes afin d'interrompre l'afflux d'armement sur le territoire. Donc cette annonce intervient 4 jours après que l'Union africaine s'est déclarée disposée à imposer des sanctions aux dirigeants qui violent l'accord de cessez-le-feu au Soudan du Sud.
Voilà. Donc pour envoyer ce genre de réflexion, je vais revenir à la dame du début, là, Madame Galatateros, comme quoi ça sert quand même d'intervenir par rapport à des situations absurdes et insupportables qui se passent dans d'autres pays. Et pour la non-intervention, enfin, etc., etc., etc.
Et pour une fois que l'administration Trump fait quelque chose de bien, il faut en parler, quoi.
Oui, oui.
Non, oui.
C'est vrai.
Oui. Tu as raison.
Mais est-ce que c'est vraiment l'administration Trump ? Enfin bref, peu importe.
Peu importe. Et l'essentiel, c'est que ça bouge.
Oui. Bon.
Et puis, il y avait Françoise qui devait, à la suite de ça, vous envoyer un petit voyage. Alors, on n'est plus en Russie, là, on est dans un pays un peu plus tropical, en Thaïlande.
En Thaïlande. Alors, il y a eu, le 6 février, il y a eu une manifestation devant l'ambassade de Thaïlande en France par le réseau des Thaïlandais pour la démocratie. Donc, la personne qui s'occupe à Amnesty de la Thaïlande et du Myanmar nous a fait parvenir le contenu
de l'action.
Oui, voilà, de l'action qu'ils ont faite. Voilà, c'est ça. Bon, contre la répression militaire et l'arrestation des militantes pour la démocratie en Thaïlande. Depuis les coups d'État de 2014, la junte militaire a installé en Thaïlande une dictature militaire. Personne n'a le droit de critiquer n'importe quel acte de ce gouvernement militaire. La corruption au sein du régime est toujours justifiée sans être mise en examen. Les lois établies par la junte ont pour objectif de légaliser la violence de l'État et d'éradiquer toute critique envers le régime. Par exemple, l'article 44 leur accorde les pleins pouvoirs en matière de sécurité nationale, pouvoir non soumis à contrôle juridictionnel. L'article 116 du Code pénal est également un outil politique utilisé pour emprisonner les adversaires au nom de la sédition. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits par la junte militaire. La junte ne s'empêche jamais d'attaquer toutes ou tous les militants pour la démocratie avec tout son pouvoir autoritaire pour faire taire les dissidents ou dissidentes. Étant donné que les militaires contrôlent tout notre pays, les militants ne cessent pas de contester ce pouvoir arbitraire. Le 20 janvier 2018, les militants et militantes d'ONG, les étudiants et étudiantes, les professeurs, ont organisé une marche pour la paix, une campagne contre la junte militaire. Cependant, cette marche a été interdite par les autorités. Ces dernières ont déclaré leur intention de poursuivre tous les organisateurs et organisatrices de cette marche. Le 27 janvier dernier, les étudiants et les militants ont organisé une manifestation contre l'ajournement des prochaines élections dans le centre de Bangkok. De ce fait, ils sont aussi accusés de sédition et seront poursuivis par une justice contrôlée par la junte militaire. Selon les informations dont nous disposons, la junte a décidé de poursuivre au moins 39 participants. Nous sommes donc ici pour dénoncer toutes les charges contre nos camarades. La liberté d'expression doit être respectée. Nous aimerions aussi lancer un appel à tout le monde, aux Français et aux Françaises, aux Thaïlandais et Thaïlandaises, à tous les médias et à toutes les organisations internationales, y compris au gouvernement français, pour dénoncer ensemble ces arrestations et demander d'annuler toutes les charges contre ces militants pacifiques. Aujourd'hui, la Thaïlande a beaucoup de prisonniers politiques. Il est temps de dire stop à ce régime arbitraire et autoritaire. Seule la démocratie, avec le respect de l'égalité et de la liberté, peut garantir le bien de tous les Thaïlandais. Les militaires sont le cancer de notre société moderne et l'obstacle majeur au progrès social. Luttons ensemble pour la libération de la Thaïlande du régime militaire. Vive la démocratie. Voilà donc ce qu'on dit le réseau international des Thaïlandais pour la démocratie devant l'ambassade de Thaïlande en France.
Et ça me fait penser que nous, au niveau du groupe d'Evreux, on soutient une avocate thaïlandaise est actuellement inquiétée, qui doit être normalement jugée pour avoir simplement défendu d'autres défenseurs des droits humains dans son pays, et qu'on continue à la soutenir, on continuera à lui écrire, et que vous pouvez aussi nous contacter pour, si vous voulez vous associer à la défense de cette avocate qui s'appelle June. Et voilà, que c'est un dossier que l'on suit de façon constante à Amnesty ici à Évreux. Voilà. On va peut-être s'écouter un peu de musique, monsieur le technicien en chef.
Je suis l'hypothèse, l'équation, la réponse et la question. Je suis la joie, le bonheur, le triste et la douleur. Je suis la haine et l'amour, la fatigue et l'envie. Je suis le vide et la foule, la passion, le mépris. Je suis le paradoxe, l'antithèse, le singulier. Je suis schizophrène, l'inconnu et la complexité. Je suis le paradigme qui sans cesse dans cette société doit faire des pieds et des mains pour se réinventer. Le souffle court, les yeux embués de larmes en apoplexie. À sillonner l'asphalte, brûlant au soleil du midi. Je me cherche et te cherche dans les rues, les écouteurs vissés sur les oreilles. Paumé dans ce mac urbain où la voûte céleste s'élève. Et les notes mortes d'un vieux gospel résonnent, ses poumons me parviennent. Des murs d'un vieux disque à place de clichés au travers des fenêtres d'un immeuble haussmannien. J'aperçois ton corps nu et indécis. Et puis la nuit tombe, alors le ciel s'émerveille. Les lumières plongent vers la ville vermeille. Au bras d'une riche et belle demoiselle, dans un élan d'amour, je me prosterne devant la devanture d'un kebab. Un complet du chef, s'il vous plaît, j'ai la dalle. Prénotion, le cliché, la promotion du préjugé. Je suis parisien, Télérama, le Coran et la Torah. Je suis l'athéisme et la foi, le rap et la bossa nova. Je suis la couleur, la fadeur, le noir, le blanc. Je suis le plombier, le facteur. Je suis la pute et puis le pan. Je suis tout, je ne suis rien. Je suis tout, je ne suis rien. Je suis le paradoxe, l'antithèse, le singulier. Je suis le schizophrène, l'inconnu et la complexité. Je suis le paradigme qui sans cesse dans cette société doit faire des pieds et des mains pour se réinventer. Alors nos corps sereins et endormis, trappés dans les lueurs de l'aube, murmurent encore un peu à la nuit que tout sera beau. Alors nos corps sereins et endormis, trappés dans les lueurs de l'aube, murmurent encore un peu à la nuit que tout sera beau. Quand viendra le jour? Quand viendra le jour?
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est donc Amnesty International Évreux. Et donc, on vient d'entendre, en fait, Paradoxe, un titre de Tim Dop. Tim Dop, c'est quelqu'un qui est venu en concert au Cube, là où on sera samedi prochain, on vous le rappelle, le 17. Mais il était aussi au Cube le jeudi dernier. Donc, j'ai plus la date en tête, mais enfin, peu importe, le concert est passé. Et nous, on était présents aussi à l'invitation du Tangram. On était présents dans la salle avec un stand d'Amnesty. Et très gentiment, il a parlé de nous. Il a parlé de l'arrivée du bus, justement, samedi 17 au Cube. Et il a dit quelques mots sur Amnesty. Et donc, voilà, il est venu signer les pétitions après sur le stand. Donc, c'était vraiment quelque chose de... C'était un soutien très sympa qu'il nous a fait.
Ouais, c'était riche.
J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce chanteur. Mais bon, c'était pas mal musicalement. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Il était apparemment l'idole de notre responsable de l'antenne jeune, Clara, qui était absolument aux anges d'avoir pu le rencontrer et discuter avec lui.
Mais a priori... Tous les jeunes le connaissaient. Quoi.
Tous les jeunes le connaissaient. Voilà, c'est quelqu'un qui, c'est un chanteur, enfin un musicien qui monte actuellement chez les jeunes, et tant mieux. Et donc voilà, il est venu nous soutenir et il a fait les choses très très bien. Il a été très ouvert et très très correct, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis d'Amnesty. Donc tant mieux. Voilà, donc on vous rappelle le bus, on en parlera à la fin, mais on vous rappelle le bus le samedi 17 au Cube avec les projections de films et les débats. Bien, Françoise vient de nous quitter, là, parce qu'elle avait un autre rendez-vous. Pour ça qu'elle a parlé dans la première partie de l'émission. Et moi, je vais vous parler d'un dossier dont on vous a déjà parlé, mais il y a d'un sujet, du moins, dont on vous a déjà parlé. Mais il y a un dossier qui vient de paraître, et c'est l'occasion pour nous de redire des choses un peu plus complètes que ce qu'on vous avait déjà dit dans d'autres émissions. C'est bien sûr le drame que vivent les Rohingyas en Birmanie. Donc bon, en préambule de ce que je vais vous dire, je suis allé voir un petit peu pour documenter mon dossier sur parce que j'étais pas très très au fin de l'actualité sur et de la situation des Rohingyas. Merci Renaud. Des Rohingyas en Birmanie, et j'étais regardé sur internet. En fait, alors c'est une population, effectivement, c'est une des nombreuses ethnies qui essayent d'habiter en Birmanie, qui est un pays avec, il y a extrêmement d'ethnies différentes, c'est un pays à la vie sociale assez compliquée, et depuis longtemps, et donc et qui parle beaucoup de langues différentes, donc c'est une des ethnies qui existent, et ces gens-là en fait sont installés, on pense qu'ils sont installés en Birmanie depuis au moins le 12e siècle, donc ils ne sont pas arrivés hier du tout. Alors voilà ce qui est, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous lire quelques extraits de ce dossier d'Amnesty, et voilà comment ça commence. Au Myanmar, la situation de la minorité Rohingya s'est gravement détériorée depuis août 2017, quand l'armée a entrepris une campagne de violence contre la population des zones du nord de l'état d'Arakan. L'état d'Arakan, c'est là justement où habitent principalement les Rohingyas, où vivent en temps normal la majorité des Rohingyas. Cette campagne, lancée en réaction à des attaques coordonnées contre les postes de sécurité commises par le groupe armé du salut des Rohingyas, était illégale et totalement disproportionnée. Au lieu de s'efforcer de traduire les assaillants en justice, elle visait l'ensemble de la population Rohingya en raison de son identité. À ce jour, plus de 600 000 femmes, hommes et enfants ont fui vers le Bangladesh voisin, où ils ont pu témoigner d'homicides, de tortures, de viols et d'incendies des villages entiers par les forces de sécurité du Myanmar, Birmanie, souvent accompagnées de milices privées. Les Nations Unies ont qualifié la situation d'exemple classique de nettoyage ethnique et Amnesty International a établi que les actions de l'armée s'apparentaient à des crimes contre l'humanité. Donc, dans l'état d'Arakan, Amnesty International a découvert un système institutionnalisé de ségrégation et de discrimination des populations musulmanes. Dans le cas des Rohingyas, ce système est si contraignant et développé qu'il constitue une attaque systémique de grande ampleur contre une population civile, manifestement en lien avec son identité ethnique ou entre guillemets raciale, et s'apparente juridiquement à un apartheid qui est un crime contre l'humanité au regard du droit international. Comprendre ce système d'apartheid, comment il se manifeste, comment il est appliqué, est essentiel pour identifier les causes profondes de la crise actuelle dans l'état d'Arakan, mais aussi pour trouver des solutions, alors que les autorités du Myanmar se sont souvent empressées de présenter la situation dans l'état d'Arakan comme un problème de tension interethnique, ou plus récemment, d'évoquer une menace terroriste. L'État lui-même joue en réalité un rôle central dans la discrimination et la ségrégation systémique dont sont victimes les Rohingyas et d'autres musulmans de l'État d'Arakan. Le gouvernement et la communauté internationale ne peuvent espérer d'améliorer le sort des réfugiés Rohingyas originaires de l'État d'Arakan sans s'attaquer aux causes profondes de leur situation.
Et s'ils ne le font pas, la discrimination sera confortée. Les souffrances humaines se poursuivront et le conflit pourrait s'intensifier. Il est essentiel de démanteler ce système d'apartheid pour garantir le retour dans la dignité de centaines de milliers de Rohingyas qui ont fui la mort, la destruction et la pauvreté au Myanmar. Mais il est tout aussi urgent de le faire pour les centaines de milliers de personnes qui vivent encore dans l'état d'Arakan, où elles sont toujours victimes de ce régime épouvantable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Rohingyas n'ont pas de statut juridique clair en Birmanie. Ils ne peuvent même pas être qualifiés de citoyens de seconde zone, puisque la plupart d'entre eux ne sont même pas reconnus comme des citoyens. En effet, ils sont privés de nationalité à cause de lois, politiques et pratiques discriminatoires, et tout particulièrement de la loi de 1982, en Birmanie bien évidemment, relative à la citoyenneté. Cette loi prévoit une discrimination fondée sur des critères ethniques. Ce qui est bien sûr contraire au droit international. Ce qu'il faut savoir c'est que les Rohingyas et les autres musulmans qui vivent dans d'autres parties de l'état d'Arakan sont confinés soit dans leur village, soit dans des camps de personnes déplacées, établis au lendemain des violences de 2012 et qui deviennent de façon inquiétante des installations permanentes au sein de l'État. Dans ces endroits, les Rohingyas et les autres musulmans ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la ville la plus proche de chez eux. Et dans les municipalités du centre de l'état d'Arakan, ils ne peuvent se rendre dans d'autres villages musulmans que par voie navigable, ce qui est une atteinte évidemment à la liberté de se déplacer. Les Rohingyas et les autres musulmans sont aussi confrontés à de diverses restrictions arbitraires de leurs accès à des soins de santé. Et là, on commence à tomber effectivement dans quelque chose d'assez sordide, y compris en cas d'urgence vitale. Dans les municipalités de Mangdo et Butidang, dans le nord de l'État, les Rohingyas mettent plus de temps à se rendre dans les hôpitaux et les centres de santé locaux à cause des autorisations de circulation et des postes de contrôle. Par ailleurs, le couvre-feu les empêche de se déplacer pour recevoir des soins médicaux en urgence pendant la nuit. Donc autrement dit, faut pas être malade quand on est Rohingya la nuit, hein. Sinon on ne peut pas être soigné. Dans les municipalités du centre de l'état d'Arakan, les Rohingyas ne peuvent pas se rendre dans la ville la plus proche de chez eux, et donc dans les hôpitaux qui s'y trouvent. Les musulmans qui vivent dans tout l'état ne peuvent bénéficier des installations bien équipées de l'hôpital général de Sitwe qu'en cas d'urgence médicale grave, après avoir obtenu l'autorisation des autorités. Ceux qui y parviennent doivent rester dans les centres isolés, où ils sont exposés à des tentatives de chantage. En raison de la ségrégation et de la discrimination, de nombreux enfants musulmans des villages de l'état d'Arakan ne peuvent pas bénéficier de l'enseignement public officiel, soit parce qu'ils ne sont pas autorisés à aller à l'école aux côtés d'enfants d'origine arakine, soit parce que les professeurs de l'enseignement public refusent d'exercer leur métier dans les écoles de villages et groupes de villages musulmans. Donc ils ne peuvent pas se faire soigner correctement, ils ne peuvent pas aller à l'école, effectivement.
Ils peuvent faire quoi alors
effectivement, à part subir la répression, leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. Et ils ne peuvent pas, bien évidemment non plus, exercer librement leur religion. Les rassemblements de plus de 4 personnes dans un même lieu sont interdits dans l'État, ce qui dans les faits les empêche d'assister aux offices religieux. En plus de leur isolation, les Rohingyas ont aussi été exclus de la participation aux élections de 2015, celle où a été élu Aung San Suu Kyi, pour des motifs manifestement discriminatoires liés au fait qu'ils n'ont pas le statut de citoyen. Bah oui, forcément, pas le statut de citoyen, pas le droit de vote, on vote pas, et effectivement c'est le serpent qui se mord la queue, hein, si on peut dire. Dans le même temps, rien ne semble indiquer que le gouvernement amènera les auteurs des atroces violences commises contre les Rohingyas lors des récentes campagnes militaires, destruction de villages, entre parenthèses, viol de femmes, meurtre d'enfants, etc., etc. Donc, rien n'indique que les violences commises contre les Rohingyas lors des récentes campagnes militaires, l'État obligera effectivement les militaires à rendre des comptes. Rien ne laisse penser ça. Mi-novembre, une enquête militaire interne a affirmé que les forces de sécurité n'avaient commis aucune violation des droits humains dans le nord de l'état d'Arakan. Donc voilà, autrement dit, il n'y a pas circulé, il n'y a pas photo, il ne s'est rien passé.
Donc ce genre de considération, effectivement, bon, le rapport en détaille beaucoup d'autres, hein, je vous fais un résumé, c'est véritablement un système d'apartheid, puisqu'on on refuse même à cette population la notion même d'être un simple citoyen ou une simple citoyenne. Et bien évidemment qu'Amnesty suit de ça de très près depuis très longtemps, et a publié un certain nombre de recommandations, aussi bien vis-à-vis de l'État birman que vis-à-vis de la communauté internationale. Ça me rappelle ce que j'ai dit au début, par rapport à cette dame, donc madame Galacteros, pardon, que si on a le devoir d'intervenir contre des États qui se comportent de cette façon-là. Donc Amnesty International demande aux autorités d'adopter de toute urgence un plan d'action complet pour lutter contre la discrimination et la ségrégation en consultant et en faisant coopérer activement toutes les parties intéressées. De procéder à un examen de toutes les lois, réglementations, politiques et pratiques discriminatoires sur la base de critères ethniques ou religieux et les mettre en conformité avec le droit international relatif aux droits humains et les normes associées. De faire en sorte que les auteurs de crimes contre l'humanité et d'autres atteintes graves aux droits humains soient tenus de rendre des comptes. Et vis-à-vis de la communauté internationale, donc ça c'est vis-à-vis de l'État birman, mais vis-à-vis de la communauté internationale, Amnesty International demande de veiller à ce que toute aide internationale, tout projet de développement ou toute aide financière en faveur de l'État d'Arakan soit explicitement accompagnée de conditions de non-discrimination, de non-ségrégation et d'égalité. De mener des évaluations rigoureuses et constantes de tous les projets et opérations d'assistance pour veiller à ce que leur mise en œuvre ne permette pas d'enraciner, de soutenir ou de perpétuer, directement ou indirectement, la discrimination et la ségrégation. De garantir l'obligation de rendre des comptes pour les violations des droits humains et les crimes contre l'humanité, soit en soutenant et en contrôlant les enquêtes et les poursuites émanant en Birmanie, soit en menant ces enquêtes et en engageant des poursuites au titre de la compétence universelle. Et enfin, Amnesty International demande auprès des Nations Unies à faire en sorte que pour toutes les opérations des Nations Unies relatives au Myanmar, Birmanie, suffisamment d'importance soit accordée aux droits humains avec les ressources nécessaires et développer un plan global pour appliquer l'initiative « Les droits humains avant tout ». Il doit inclure des échéances de mise en œuvre détaillées, des indicateurs de réussite clairement identifiés et un mécanisme d'alerte rapide destiné à empêcher les violations graves des droits humains à y répondre. Voilà. Et juste un petit mot pour finir cette intervention. Il y a un communiqué qui est paru. Bon, là, je ne vais pas non plus vous le citer en entier parce que ce serait trop long. Mais il y a un accord apparemment qui a été passé là, vis-à-vis des 600 000 Rohingyas qui sont actuellement dans des camps au Bangladesh puisqu'ils ont dû fuir leur pays, enfin là d'où ils viennent, vu les conditions de vie dont on vient de vous expliquer, et bien pire. Et donc, ces 600 000 personnes, il y aura un accord qui a été conclu pour qu'ils puissent réintégrer l'État d'Arakan dans les deux ans à venir. Sauf qu'évidemment, cet accord-là s'est fait sans aucune discussion avec les intéressés et jusqu'à présent, Amnesty est extrêmement sceptique, pour ne pas dire autre chose, par rapport aux conditions que revêt cet accord à venir. Donc on va là aussi être très prudent et on se demande pourquoi il y a une telle urgence à vouloir vider entre guillemets les camps de réfugiés alors qu'il n'y a absolument aucune sécurité pour le retour des Rohingyas en Birmanie n'a été apportée par l'État birman. Voilà. Peut-être qu'après ça, Renan va vous dire autre bonne nouvelle.
Je pense que c'est le moment, oui. Donc, en Iran, une condamnation à mort annulée. Saman Nassin, un membre de la minorité kurde en Iran, arrêté à l'âge de 17 ans, n'est plus sous la peine de mort. Condamné pour inimitié à l'égard de Dieu, Saman Nassin avait été à plusieurs reprises sur le point d'être exécuté. Son avocat nous a confirmé qu'il avait été acquitté des charges qui pesaient sur lui et que sa peine avait été commuée en 5 années d'emprisonnement pour appartenance à un groupe formé dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale. Son avocat estime qu'en raison du temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux, Saman Nassin devrait bientôt être libéré.
Bon, puis je pense que comme on aime bien les bonnes nouvelles, t'en as pas une autre là sous la main ?
Ah bah si, tout à fait.
Oh bah vas-y, faut pas hésiter.
Là, c'est en Égypte. Mayenour El Masri est avocate et avait été condamnée en 2016 pour son militantisme pacifique. Elle vient d'être relaxée. C'est une merveilleuse nouvelle pour Mayenour qui vient de retrouver la liberté. Elle n'aurait cependant pas dû passer un seul instant derrière les barreaux car elle n'a été arrêtée qu'en raison de son militantisme pacifique en Égypte. Sa libération est sans nul doute un énorme soulagement pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'ont inlassablement défendue.
Il y avait Ronan qui fronçait les yeux, qui avait des maladies.
Et pour rien cacher, je change de lunettes demain, je pense que ça ira mieux.
Tu nous rappelles où ça se passe, cette libération?
En Égypte.
En Égypte. Ben voilà, on espère qu'il se passera exactement la même chose très rapidement pour Taner Kilic, dont on vous a parlé tout à l'heure. Lui non plus, en Turquie, n'a rien à faire, en prison. Un deuxième petit break musical.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask for me to open up the gate for you. I want you. I want you. I want you so bad. I want you. All my fathers, they've gone down to love, they've been without it, but all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. Chad with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it though, because he lied, because he took you for a ride, and because time was on his side, and because
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est toujours le groupe d'Amnesty International Évreux, et on vient d'entendre un morceau qui s'appelle I Want You. C'est une reprise qui figure sur le quadruple CD qui était sorti il y a quelques années en soutien à Amnesty et qui s'appelle Chimes of Freedom.
On pourrait pratiquement dire les deux rescapés du groupe, parce que
on
était à quatre, on n'est plus qu'à deux.
Non, mais Françoise a dû partir. Claire-Lise apparemment a un empêchement. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà, quand on travaille comme nous, qu'on est bénévole et on est très fiers d'être bénévole, et que donc voilà, il y a des impondérables partout, et donc voilà, pas de soucis, mais on va terminer l'émission sans problème.
Tant que tout le monde il faudra que tout le monde soit présent ce week-end, parce que je crois que ce week-end on a quelque chose.
Voilà, ben oui, exactement. Samedi, on vous le rappelle, on vous l'a dit au début de l'émission, mais là on va en reparler beaucoup plus longuement, pendant le quart d'heure qui nous reste. Il y a donc un bus d'Amnesty qui vient vendredi et samedi, un bus d'Amnesty qui s'appelle I Welcome, un bus jaune qui va être très facile à voir dans les rues d'Évreux.
nombreux. Enfin, il va être stationné le vendredi au lycée Aristide Briand. Et le samedi, il sera devant le Cube, la salle des musiques actuelles. Donc, venez nous voir, venez visiter le bus. Il y aura de la documentation dans le bus, une exposition. Et tout ça, c'est en rapport avec ce travail qui s'appelle I Welcome. Et vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire bienvenue, en anglais. Et bienvenue, c'est par rapport à tout un travail sur l'accueil, bien évidemment, des réfugiés et des migrants. Mais surtout par rapport aux réfugiés, puisque c'est un thème qui tient particulièrement à cœur, d'Amnesty. Donc ça traite effectivement de tout ce qu'on entend par rapport à l'accueil des réfugiés en Europe. Bon, ça, les gens qui meurent en Méditerranée, les camps de réfugiés à droite et à gauche, comme à Calais, tout ce qui s'y passe, enfin, je veux dire, toutes les qui font la une des médias, et toutes les conditions de vie sordides dont on est malheureusement co-responsable en tant que Français, et dans ce pays qu'on aime toujours à tort, le pays des droits humains, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, l'arrivée de ce bus, c'est de faire toute une campagne par rapport à la nécessité d'accueillir correctement les réfugiés, parce que les réfugiés, ce sont des gens qui cherchent l'abri pour défendre leur vie, qui fuient la guerre, qui fuient des menaces dans leur propre ville et qui luttent pour leur propre survie. Et c'est reconnu par le droit international. La France a signé tous les textes, l'Europe a signé tous les textes, encore une fois, et on ne fait que des rappels à l'ordre vis-à-vis des autorités françaises et européennes pour dire nous devons accueillir les réfugiés dans des conditions dignes. Voilà le sens du discours d'Amnesty. Alors on va reprendre vous, le public, vos souhaits par rapport à ça. Ils seront notés sur des petits cartons. Enfin, vous découvrirez sur place samedi comment ça se passe. Et l'ensemble de ces réflexions seront remises auprès de la présidence de la République, à l'Élysée, au mois de juillet prochain. Le bus sillonnant les routes de France depuis l'été dernier jusqu'à l'été prochain. Donc voilà. Donc on compte sur vous pour être présents. Il y aura des projections de films. On va vous en dire un petit mot tout à l'heure. Il y aura des projections de films et une conférence débat. Mais je vais vous passer un petit extrait d'un petit explication que j'ai récupéré sur France Culture aussi et qui explique très bien pourquoi ce que dit Amnesty, à savoir que l'accueil des réfugiés, ce n'est pas les réfugiés qui sont le problème, c'est l'accueil des réfugiés qu'on n'est pas capable de faire dignement qui est un problème.
Cette crise a été de mettre à jour, on va dire, le manque de solidarité européenne, et encore c'est vraiment un euphémisme, c'est-à-dire l'explosion des mécanismes de coopération communautaire devant un afflux de réfugiés dont je me permets de préciser qu'il n'était pas exactement la surprise de l'année. C'est-à-dire que les crises dont on parle, la Syrie commence à la fin de l'année 2011, elle ne touche l'Europe qu'à la fin de l'année 2014, au début de l'année 2015. La crise érythréenne, je me permets de le rappeler aussi, elle a commencé en 1962, donc on a eu un petit peu le temps de la voir venir. La crise irakienne, elle commence en 2003, si on oublie les crises précédentes. Donc on n'est pas non plus face à des événements de type cataclysme environnemental totalement inattendu. Donc l'impréparation de l'Union européenne et cette explosion des mécanismes communautaires, elle m'inciterait à dire que cette crise est peut-être pas du tout une crise des migrants ou des réfugiés.
Donc voilà, c'était Madame Hélène Thiollet, elle s'appelle. C'est une chercheuse, une sociologue au CNRS, et qui parlait il y a quelques semaines au micro de France Culture. Donc voilà, qui explique très bien que cette fameuse crise, entre guillemets, des réfugiés, cette quantité importante de population qui vient en Europe pour chercher refuge, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, comme elle le dit, on avait le temps de voir arriver les choses. Bien sûr, personne ne l'a fait. Et après, on s'aperçoit qu'on est désemparé par rapport à ces gens-là, alors qu'en fait, c'était tout à fait prévisible. Et c'est ce que dit Amnesty. Alors, plutôt que de vous faire un grand discours, dans ce qu'on va développer samedi dans nos débats et dans les films que vous allez voir, il y en a deux. Film, un qui se passe dans un reportage qui a été fait par Yolande Moreau dans le camp de Calais qui s'appelle Nulle part en France, et un autre, un reportage qui a été fait sur une petite ville qui est à 30 km d'ici, à Cerquigny, qui accueille depuis un an et demi 30 réfugiés afghans, et de voir la réaction de la population par rapport à ça. C'est tout à fait intéressant. Mais j'ai récupéré aussi un autre petit son aussi sur France Culture d'une personne. Alors je vais vous expliquer en deux mots pourquoi je vous passe ce son-là. C'est une personne qui a milité visiblement très très longtemps à l'extrême droite, et qui avait un discours extrêmement raciste et contre les réfugiés, enfin, etc., voire pire, et qui a découvert, en étant amenée elle-même suite à une démarche avec quelqu'un d'autre, à aller dans ce camp de réfugiés et à participer, à servir des repas, à s'être aperçu qu'en fait, tous ses préjugés étaient entièrement faux.
Donc le premier jour où je suis arrivé, on était au Verrocchio. C'est là où, à la base, il y a le plus de monde. Quand on est arrivé, il devait y avoir à peu près 250 personnes la première fois. Sur le coup, je me suis dit quand même, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit, mais par rapport au nombre de mecs, au nombre de femmes parmi les bénévoles et au nombre de mecs à côté, je fais, si jamais ils se mettent à péter une durite, les bénévoles sont morts. Ça, ils ont pas intérêt à les froisser ou quoi que ce soit. Et pourtant, ben, dès qu'il y en a un qui a mis le souk, le mec s'est fait recadrer, ils sont pas bronchés. Je me suis dit, waouh, ça, déjà, avec ça, ça n'avait rien à voir avec l'idée que j'en avais. Ensuite, les voir arriver avec les chaussures trouées, les semelles complètement décollées, quand on dit sur les sites patriotiques que les mecs, ils ont des bifetons plein les poches, qui se promènent avec des liasses, que c'est limite s'ils sont pas la Banque de France. Si le mec était la Banque de France, il se promènerait pas en guenille. Bon, sur le coup, par rapport à mon look, Rangers, treillis, crâne rasé, ils m'ont pris pour un flic. Donc les mecs se sont bien méfiés. Donc après, j'ai commencé à parler, parce que parmi eux, il y a un gars qui parle très bien français. Donc un Érythréen qui parle extrêmement bien français. Avec lui, le contact est passé tout seul. Je sais pas si c'était le fait qu'il parlait français ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché. On a commencé à papoter, donc après il y en a d'autres qui nous ont rejoints. On a commencé à parler en anglais, il y a plein de contacts comme ça qui sont établis, mais de manière naturelle. On a commencé à plaisanter autour d'une tasse de thé, c'était... J'ai halluciné. Après, il m'a expliqué comment ils vivaient sur place. Les mecs sont à 5, parfois dans une tente. Des fois, ils ont même pas des bâches sur les côtés. C'est juste des palettes, donc des trous avec une toile au-dessus. Les mecs n'ont strictement rien. Les mecs n'ont pas de pognon. Nous, dans ces conditions-là, on se jetterait déjà sous un train. On tiendrait pas. Nous, on se suicide. On va voir les Afghans. Les mecs vivent dans un marécage. Ça pue. Il fait froid. C'est la boue. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui était décrit, avec ce qui était dit. On m'aurait foutu un coup de couteau dans le ventre, c'était exactement pareil. Parce que le choc a été d'une brutalité, ça a été d'une violence. J'ai descendu, je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est descendre la moitié d'une bouteille d'alcool. Parce que fallait que je me remette une gueule de bois, de manière à après réavoir les idées claires. Parce que je suis rentré, j'étais pas net. C'est comme un mec qui venait de se faire plaquer, ou je sais pas. Mais je suis rentré, j'avais un... Comme si j'avais pas arrêté de me prendre des coups, en fait. Quand j'étais entré à Sauvon-Calais, j'étais raciste et islamophobe. Mais quand je vous dis raciste, c'était raciste. Je pouvais pas les voir en peinture. Et pour moi, les musulmans, c'était tous des islamistes. Fallait tous... c'était même pas la peine. Fallait tous les flinguer parce que c'était nocif. Moi, je les voyais tous comme des terroristes. Et pour moi, un musulman modéré, c'était juste un terroriste qui attendait son heure pour passer à l'action. Maintenant, depuis que je côtoie donc les migrants ici, dont la plupart sont musulmans, ben, il y en a pas j'ai jamais eu de problème avec. Pourtant, ils savent que je ne suis pas musulman. Et, ben, on a déjà parlé de religion, ça leur a posé aucun problème. Donc, j'ai continué de faire les distributions avec Salam parce que les choses que j'ai vues m'avaient choqué. Ça n'avait pas du tout de rapport avec ce qu'on m'avait dit. Il y a des gens parmi les migrants qui m'ont touché. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de rester. Parmi les gens que j'avais croisés à Sauvon-Calais, donc par rapport maintenant au fait que je côtoie Salam et que je suis avec eux, il y a des liens qui ont été rompus, et pour d'autres, je suis devenu un paria, donc un traître. Bon, par contre, je revois toujours Patricia 2 ou 3 fois par semaine, donc c'est une bonne copine. Maintenant, si demain je devais retrouver donc un emploi, parce qu'actuellement je suis au chômage, ça n'empêcherait pas que, à mes moments libres, je retournerais distribuer des petits déjeuners. Si jamais j'avais des postes de l'après-midi ou quoi que ce soit, au matin, j'irais redistribuer des petits déjeuners.
Voilà, donc c'est cette personne qui explique son cheminement, comment on passe effectivement d'a priori raciste, et pire que ça, à un constat de réalité par rapport en disant « mais ces gens-là sont dans une grande détresse et on a un devoir effectivement d'humanité ». Et bien c'est tout ce que dit. C'est exactement la même façon de dire, même si les mots sont différents, même si bien évidemment l'approche de la personne est différente, mais ce ne sont pas autre chose que ce que dit Amnesty. Et je vais vous lire juste pour finir, donc on vous attend samedi encore une fois, donc de 14h à 18h, on vous attend au Cube, donc avec 2 projections de films et une conférence débat qui sera animée par Sylvie Wédenou de la commission réfugiés d'Amnesty International France. Et la journée sera couverte par la radio, d'ailleurs, elle sera retransmise la semaine suivante, du moins le débat. Et donc c'est juste pour terminer, je vais vous lire simplement un petit mot qui est dans le dossier qui accompagne cette arrivée du bus ici, le dossier pour les médias, bien sûr. C'est un petit mot de la présidente d'Amnesty International France qui dit « En provenance de Syrie, d'Érythrée, de Birmanie ou de pays d'Amérique centrale, les réfugiés ont continué de risquer leur vie à la recherche d'une protection internationale. Contraints d'affronter les dangers de la mer et des frontières terrestres, ils sont exposés aux mauvais traitements, manœuvres d'extorsion et violence aux mains des forces de l'ordre, des bandes criminelles, des passeurs et des personnes se livrant à la traite des êtres humains. Les femmes, les jeunes filles et les enfants sont les premières victimes de ces violences. » Amnesty International déplore que cette crise mondiale des réfugiés, loin de jouer le rôle de catalyseur en faveur d'une réponse mondiale et collective fondée sur les droits humains, soit devenue au contraire un prétexte pour fermer davantage les frontières au détriment des personnes réfugiées. Partout dans le monde, des personnes se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. Cette volonté d'accueillir est aux antipodes de la politique pratiquée par les États et du discours des dirigeants qui tournent leur dos à leurs obligations de protection des réfugiés. Et plus tard, le dossier continue pour dire effectivement des solutions existent. Aujourd'hui, les personnes qui fuient leur pays pour sauver leur vie risquent la mort, sont exposées à la violence ou subissent des conditions de vie indignes. Cette situation n'est ni évitable ni immuable. Elle trouve son origine dans des décennies de choix erronés faits par des dirigeants mondiaux qui ont consisté à protéger les frontières au détriment des réfugiés, maintenir ces personnes à tout prix à distance, les refouler et ne pas investir dans les procédures d'asile et les dispositifs d'accueil conformes au droit international. Et là, ça renvoie au petit son que j'ai passé tout à l'heure, cette personne du CNRS qui expliquait bien effectivement qu'on n'avait rien fait pour l'accueil des réfugiés, alors que ça faisait des années qu'on avait des informations comme quoi ça allait arriver. Ces choix, il est temps de les modifier. Donc elle parle des choix de l'Union européenne. Ces choix, il est temps de les modifier pour sauver et protéger des vies et enfin mettre un terme à la crise mondiale des réfugiés. Voilà. Donc pour terminer l'émission de ce soir, puisqu'on va toucher à la fin là, on vous rappelle donc cette venue du bus. Alors Renan, tu sais quel jour il est à Évreux, les deux jours?
C'est vendredi et samedi. Donc vendredi, il est au lycée d'État.
C'est ça, au lycée Aristide Briand, ouais, toute la journée.
Je cherche le nom. Et samedi, il est donc en face du cube.
Il est au cube pendant toute l'après-midi.
Et vous ne pouvez pas le rater, ça, c'est un bus, il est jaune et tout.
Il se voit bien.
Très long,
il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc on vous attend nombreux. Il y aura aussi, offert par le Tangram, il y aura aussi des boissons chaudes. Il y aura des expositions aussi, on n'en a pas parlé, mais il y aura des expositions. Il y aura aussi la présence d'amis de deux associations, puisqu'il y a le CFED et RESF qui nous ont confirmé qu'ils seraient présents et ils mettront une table d'information par rapport à leurs propres activités vis-à-vis des réfugiés et des migrants qui sont tout à fait complémentaires de ce que nous on fait. Donc on est très contents qu'ils soient là aussi. Et il y aura ce débat, donc après le premier film, il y aura ce débat de 15h à 16h15 à peu près, qui a pour thème « Réfugiés et migrants, une nécessaire solidarité ». Voilà. Donc, on espère que vous serez prêts à venir nous soutenir, prêts à à agir avec nous, parce qu'on n'est jamais réduit à l'impuissance. C'est pour ça qu'on fait de la radio depuis des années. C'est pour vous montrer aussi qu'on n'est jamais réduit à l'impuissance. Et là, l'émission touche à sa fin. Donc, on va laisser la place au laboratoire. Notre ami Manu vient d'arriver.
Et je pense qu'on peut annoncer
la prochaine émission de radio.
C'est le 27, cherche le poste.
C'est le 27 février de 19h sur l'antenne de Principe Actif. Et il y a le podcast, il y a les podcasts sur le site, bien sûr, que vous pouvez réécouter.
Allez, bonne soirée à tous.
T'as tout coupé,
partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.